Marceau et Pascal Cévé.
Vous êtes sur les ondes de boulevard 101. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, elle, c'est Pascal Cévé. C'est 1 degré sur Québec. C'est plein soleil. On va se le dire, le printemps s'en vient. On a-tu hâte que ça fonde, tout ça? Cette neige-là, qui est supposée être blanche à la base, mais qui est un peu brune dans le secteur Le Bourgneuf.
Dis pas ça à ceux qui trippent montagne, ski et autres. C'est leur meilleur temps de l'année, là,
ben
le ski de printemps.
Température est adéquate, mais c'est ça. J'ai hâte que le printemps, pour de vrai, arrive. On a eu des premières prémices du printemps dans les derniers jours.
Hey, là,
j'ai vu qu'il y a des
wow.
gens qui étaient en culotte courte déjà. Ça, c'est des intenses. Là.
À Montréal, Mont-Tremblant, il y en avait qui étaient en gougoune. Ça va?
À la Montréal.
On salue Simon Bourassa, tu sais, à Québec.
Les gens sont différents à Montréal.
Non, c'est Simon Bourassa.
Ah, OK. Ouais, mais Simon a toujours été différent.
Un excentrique.
Ben oui. 418-971-1001, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Je suis tellement content d'accueillir la prochaine invitée. Ça faisait un bail que je la voulais en entrevue. Mais tout le temps occupé. Je vais me baser sur la chronique de Valérie Gaudreau d'aujourd'hui. Là. C'est la femme que tout le monde veut voir partout dans les entreprises qui sont dirigées avec nos taxes, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral. Ce que j'ai su dans les dernières semaines, c'est qu'elle ne sera pas candidate à la mairie de Québec, bien que je demande ça depuis des années et des années, parce
T'es
que
déçu.
C'est une personne hyper compétente. Elle se nomme Olga Farman. C'est la nouvelle PDG du Port de Québec. Tellement content de vous parler ce midi, Mme Farman.
Monsieur Marceau, c'est un privilège. Vous savez pourquoi? Je vais toujours trouver le temps de vous parler. Là. Alors, je découvre ça, mais vous allez toujours être une priorité.
Oh! Bon, ben ça, là...
Faites attention, on va peut-être en user un peu trop.
Je vais garder cet extrait audio-là jusqu'à la fin de mes jours, Mme Farman. Comment on en est venu à parler constamment de vous? Vous êtes avocate de formation, vous avez travaillé pour Norton Rose pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui fait que les gens vous placent tout le temps dans des postes stratégiques au Québec?
Ben, savez-vous quoi? Je m'intéresse moins à pourquoi on parle de moi que pourquoi je parle autant de ma ville, puis pourquoi je dis autant que je l'aime. Vous dites à quel point il fait beau. J'espère que les gens, d'ailleurs, vont venir marcher au bord du fleuve. Je regardais ça ce matin avec les glaces puis avec le soleil. J'aime ma ville. Je suis fière de ma ville. Je pense qu'il faut en parler davantage. Il faut recréer ou maintenir un sentiment de dynamisme, de solidarité. Au quotidien, tu sais, il y a plein de projets qui nous divisent, mais moi, je vois encore plus de projets qui nous unissent. On est dans des temps un peu austères, un peu difficiles, angoissants. Fait que je vous dirais, M. Marceau, Mme Caron-Vézina, ce que je veux, là, c'est pas tant parler de moi que de parler de la fierté que j'ai par rapport à Québec.
On va certainement en parler dans les prochaines secondes. Juste avant, vous êtes de l'Est du Québec. Vous êtes arrivé à Québec en quelle année?
Je suis arrivée en 97 pour mon bac en droit. Donc, je suis vraiment née, j'ai grandi à Rivière-du-Loup, dans le bas du fleuve.
Ouais.
C'est le fleuve qui a accueilli ma famille, des immigrants iraniens. Une belle famille tricotée serrée, parce qu'essentiellement, on était quatre à Rivière-du-Loup, avec une communauté qui nous a vu grandir. Donc, dans les années 97, je m'installe à Québec. Puis depuis ce temps-là, je suis tombée en amour de la ville, de la région, des amis, de mon mari. Puis on est installé ici.
Quand on regarde les anciens dirigeants du port de Québec, c'était des gens qui semblaient peu accessibles, du moins de mon point de vue à moi. C'était des gens qui étaient constamment dans le monde des affaires, géraient beaucoup de choses au niveau fédéral.
Moins de vulgarisation dans les médias. Ouais.
C'était assez rare qu'un maire pouvait rencontrer régulièrement les PDG. Puis vous semblez vouloir amener comme un vent nouveau là, pour ce qui est de la gestion du port de Québec. Puis on a l'impression que vous nous invitez constamment au port de Québec. Est-ce que c'est votre vision à vous, ça, de rouvrir le port pour tout le monde, parce que le port appartient à tout le monde?
Bien, le port appartient à sa ville. On est une ville portuaire. Si vous regardez que ce soit le drapeau de notre capitale avec le bateau, écoutez, depuis 1858 que le port fonctionne, a été constitué, accueille des navires. J'ai beaucoup lu au courant des derniers jours, des dernières semaines. Faut faire preuve d'humilité, là. J'arrive d'un domaine légal, sciences de la vie, santé. Je découvre un univers fascinant, complexe du monde maritime et portuaire. Et je vois pas comment on peut qu'on peut faire autrement que d'être accueillant, généreux. Je veux que la population s'approprie de son port. Je veux qu'il y ait accès. On a plein de tables citoyennes pour discuter des enjeux. On a plein d'activités. Moi, l'été, je viens prendre un verre à la cale. L'hiver, je viens pêcher ma petite truite, même si je les pêche pas tout le temps. Là, je les attrape pas tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des activités pour tous. On a mille et une opportunités. Puis, je vous parle de fierté à Québec. Ben, je pense que d'avoir un port qui est au cœur de son centre-ville, au cœur de son histoire, il faut le redonner aux citoyens, puis il faut écouter les citoyens.
Il y a beaucoup, dans l'actualité, tu sais, des genres d'histoires concernant des ports, le port de Toronto, du côté de Montréal et autres. Ça fait pas toujours bonne presse, un port. Comment est-ce qu'on est à l'affût, justement, de faire en sorte que notre port puisse rester dans la réglementation que l'on connaît, qu'il n'y ait pas d'import-export qu'on ne veut pas? Ça doit être quand même difficile, là, maintenant, en 2025, ce genre de gestion-là.
C'est une excellente question. Tu sais, c'est complexe, hein, ça. On est un pivot au cœur de la chaîne d'approvisionnement. C'est un outil, un port, une administration portuaire, c'est d'accueillir différents partenaires maritimes qui opèrent. Puis c'est pas toujours, c'est pas toujours visible. Les gens ne voient pas ce qu'on fait. Il y a une réglementation, comme vous le dites bien, complexe aussi, qui est fédérale, mais aussi avec des enjeux provinciaux puis municipaux. Alors, ça prend des gens compétents, puis ça prend des gens dévoués. Sincèrement, là, la clé à ça, c'est une équipe qui veille, tant au niveau des opérations qu'au niveau de la réglementation, par exemple, environnementale ou autre. Ça prend une équipe qui est à l'affût. Puis aussi, je vous ramènerai un dernier point. On parle du fleuve, par rapport à, je vous donnais l'exemple de Rivière-du-Loup. Bien, un fleuve, c'est aussi une unité. C'est une unité qui est de Montréal en passant par Trois-Rivières ou cette île que j'ai hâte de visiter prochainement, puis je vais aussi aller dans le Saguenay. Je pense que la solidarité entre les ports, la transmission d'informations puis de connaissances va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus fort. Fait que c'est pas tant que j'ai d'inquiétude. Je pense que ça prend les bonnes personnes. Puis pour le moment, ce que je découvre après 6 semaines, c'est toute une équipe compétente et dévouée.
De quelle façon le port sous votre gouverne va croître? Est-ce que vous allez l'optimiser, c'est votre prémisse de base, ou est-ce que vous pensez l'agrandir, ce port-là?
Je pense que vous avez le mot juste, optimisation. On a les espaces qu'on a. On a déjà un privilège d'avoir, que ce soit les espaces terrestres ou une partie de la voie navigable qui est sous notre juridiction. Alors, tout est une question d'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement, de la chaîne logistique. Prendre les terrains, s'assurer qu'on a les meilleurs partenariats, les meilleurs partenaires. Ça, c'est un travail à temps plein, c'est un travail en continu. Tu sais, c'est pas tout à coup on arrive puis on se dit, OK, je remets en question l'utilisation de mes terminaux, par exemple, ou de mes quais. C'est vraiment quelque chose qui se fait par les équipes, par le PDG, mais aussi par le conseil d'administration, à partir du moment qu'on a une vision de croissance, mais une croissance durable. On parle beaucoup de tout ce qui est ESG, on parle de développement durable. Moi, je pense qu'on peut allier croissance économique, mais croissance durable pour s'assurer de la pérennité du port. Mmh.
Est-ce que ça peut être compliqué quand il y a autant d'acteurs qui sont dans le dossier? T'sais, vous avez parlé d'un conseil d'administration, mais aussi tous les paliers gouvernementaux qui sont impliqués. Est-ce qu'on se ramasse dans un genre de gros paquebot difficile à tourner ou à orienter, honnêtement?
Vous avez tellement raison. Je pense que c'est ce qui me souffle le plus depuis que je suis arrivée dans l'industrie.
Là, parce que vous étiez souvent au privé, là, fait que c'est sûr que c'est différent.
C'est ça. C'est sûr que je suis habituée à beaucoup de flexibilité, à des dossiers complexes. J'ai toujours œuvré puis grandi dans des dossiers complexes. J'arrive du domaine du droit des sciences de la vie, santé. Alors bon, c'est pas toujours plus facile. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de connaissances techniques aussi. Il y a beaucoup de particularités, puis vous l'avez dit tantôt, c'est 3 paliers gouvernementaux qui se rejoignent. Fait que tantôt, quand je vous parlais d'être un pivot, ben c'est aussi un pivot des intérêts des différents paliers gouvernementaux qui sont des partenaires, dont on a désespérément besoin, parce qu'on n'est pas capable de supporter tous les projets de croissance. Je pense notamment à l'électrification des quais et autres. Et à date, ça se passe très bien. Ils ont toujours été là au rendez-vous. Ils peuvent nous challenger, ils peuvent poser des questions, ils peuvent remettre en question certains projets. Mais ça ramène à la question de la complexité. Chaque palier de gouvernement a ses règles, ses façons de faire, ses intentions, ses stratégies. Fait que mon rôle, c'est de naviguer. Je vous avoue que ma conclusion, c'est pas mal ça. C'est de naviguer à travers les exigences de tout ce beau monde.
Ouais, pour ce qui est de l'import-export qui passe par le port de Québec, bon, il y a le Grand Orange, l'autre bord de la frontière, qui semble vouloir négocier. Quel impact que ça peut avoir pour les gens du port, pour les entreprises qui sont au port présentement? Est-ce que vous avez déjà un plan d'action pour ce qui est des prochains mois concernant ces décisions?
Ouais, le contexte, puis là, je vais vous parler personnellement, là, avant de parler au nom du parc, c'est sûr qu'il est inquiétant. L'instabilité, les fluctuations d'heure en heure, là, c'est même pas journalière, là, font en sorte que pour une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, il faut nécessairement diversifier pour éviter de dépendre d'un pays ou d'un partenaire qui tout à coup l'est pas. Alors, là où le port peut jouer un rôle, c'est justement d'être au cœur de cette chaîne d'approvisionnement-là, de ramener autour de la table, d'offrir des propositions, des stratégies à ses différents partenaires. On a commencé ces discussions, puis savez-vous, la première journée là, de ma nomination, les décrets ont commencé à pleuvoir au sud de la frontière et les menaces tarifaires. Alors, depuis ce temps-là, j'ai rencontré plusieurs partenaires, plusieurs entreprises, et ça revient partout. Il n'y a pas, à court terme, présentement, je ne vois pas d'impact. C'était mon inquiétude de dire est-ce que ça a un impact sur ce qui rentre, ce qui sort au port de Québec. Je le vois plus comme un levier. Comment est-ce que dans une stratégie de diversification de marché, à partir du moment où on veut aller en Afrique, on veut aller en Europe, on veut rejoindre l'Asie, comment est-ce qu'on peut, à partir de notre port, de notre ville, soutenir les entreprises du Québec pour aller à l'étranger? Ça va être ça le défi que je nous donne.
Madame Farman, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupée, là, puis je dois vous laisser partir.
Ça a été un plaisir, puis à la prochaine. Là, j'attends votre prochaine invitation.
Avec certitude.
Bon, restez proche de, restez oui. proche de votre téléphone.
Merci, au revoir. Bye bonne bye. Journée, au revoir.
Midi 43, Olga Farman, qui est la nouvelle PDG du Port de Québec avec qui on s'entretenait. Puis probablement que dans les prochaines semaines, on va la recevoir en studio pour justement parler un peu plus de la gestion du Port de Québec. C'est quoi les
défis
les
de
prochaines étapes
ça.
Pour le port à court, moyen et long terme? Puis c'est quoi l'impact d'un tramway pour ce qui est du Port de Québec? Est-ce que mm-hmm. ça en a un? L'impact d'un troisième lien aussi, ça en a-tu un?
L'impact du port de Québec sur Québec, la province, puis peut-être le pays aussi. T'sais, on est-tu un si grand joueur ou on ne l'est pas? Mais ça doit être difficile de venir du privé pour aller jouer dans des enjeux ouais. comme ça où tu dois naviguer et jongler entre tous les paliers gouvernementaux. C'est une femme qui a de la couenne, ça, c'est
oui,
sûr.
Puis on nous dit qu'elle est extrêmement studieuse. Là, donc, les premières semaines, bien entendu, tu jases avec les divers intervenants, tu jases avec les gens qui ont de l'expérience dans place, puis tu fais tes propres trucs de ton côté, puis par la suite, ben, tu es en mesure de faire le poste efficacement. Hey, midi 44, on va faire une courte pause, on vient. 102.